Le verset 5. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Ce passage-là, on va revenir à ça plus tard dans Juges 7, en rapport avec les vases, les torches et les trompettes, mais c'est un point de départ pour nos études aujourd'hui. Et par ces cantiques que nous avons chantés, j'ai pensé à ce verset-là. C'est exactement ça que Dieu veut, que Christ Jésus soit prêché comme Seigneur dans nos vies aujourd'hui. Donc le Seigneur nous aide à voir Christ dans Juges 6. Juges 6 maintenant, on va lire depuis le début jusqu'au verset 21. Juges 6. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra en la main de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian fut forte sur Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël se firent les antres qui sont dans les montagnes, et les cavernes, et les lieux forts. Il arrivait que, quand Israël avait semé, Madian montait, et Amalek, et les fils de l'Orient, ils montaient contre lui. Il campait contre eux et détruisait des produits du pays, jusqu'à ce que tu viennes à Gaza. Il ne laissait point de vivre en Israël, ni mouton, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient, eux et leurs troupeaux et leurs tentes, ils venaient nombreux comme des sauterelles, et eux et leurs chameaux étaient sans nombre. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Et Israël fut très appauvri à cause de Madian. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. Et il arriva que, lorsque les fils d'Israël crièrent à l'Éternel à cause de Madian, l'Éternel envoya aux fils d'Israël un prophète qui leur dit, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs, et je les ai chassés de devant vous, et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit, moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux de l'Amoréen dans le pays duquel vous habitez. Et vous n'avez pas écouté ma voix. » Et un ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe qui est à Ophra, lequel était à Joas l'Abiézrite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre en sûreté de devant Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Et maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés en la main de Madian. » Et l'Éternel le regarda. Il lui dit, « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Et il lui dit, « Ah Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Moi, je serai avec toi, et tu frapperas Madian comme un seul homme. » Et il lui dit, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui parles avec moi. Ne te retire pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je vienne à toi, et que j'apporte mon présent et que je le dépose devant toi. » Et il dit, « Je m'assiérai jusqu'à ce que tu reviennes. » Et Gédéon entra et apprêta un chevreau et des pains sans levain d'un épha de farine. Il mit la chair dans un panier et mit le bouillon dans un pot et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce rocher-là et verse le bouillon. » Il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main et toucha la chair et les pains sans levain. Et le feu monta du rocher et consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel s'en alla de devant ses yeux. Jusqu'ici la lecture de la parole. C'est une histoire impressionnante, une histoire avec des leçons pratiques pour nous. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on a toujours des leçons bien pratiques pour nous. C'est d'abord donc une histoire littérale en rapport avec l'histoire d'Israël. C'est une histoire qui nous parle aussi de l'histoire de l'Église, comme on va voir tantôt. Et c'est même une histoire qui a des applications prophétiques, comme on va voir plus tôt dans le chapitre 8, que je le mentionnerai. Mais ici, on a vu que les ennemis sont venus comme des sauterelles. Et ça me fait penser aussi aux plaies, une des plaies qui est venue sur l'Égypte, avec laquelle Dieu a frappé l'Égypte, et qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Mais ce n'est pas le but de nos études. On aimerait se concentrer sur les leçons morales pour nous, présentement, selon l'enseignement du Nouveau Testament, qui nous parle de ces histoires comme étant données pour notre instruction, pour notre correction aussi, pour notre encouragement. On a vu donc que le peuple d'Israël était dans le pays promis. Et ainsi, on a vu le lien avec notre position. En Christ, Dieu nous a placés dans son pays, pour ainsi dire. Il nous a bénis avec toutes les bénédictions qui sont dans le ciel, qui sont dans le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces bénédictions? Qu'est-ce que l'Église a fait avec ces bénédictions? On voit toujours que d'autres ennemis viennent pour attaquer le peuple de Dieu. Et Dieu permet ces choses à cause du relâchement, à cause de l'éloignement, à cause de l'infidélité, à cause de la désobéissance du peuple de Dieu, à cause de l'idolâtrie même. Puis on voit ça clairement aussi dans l'Église, l'histoire de l'Église. Avant qu'on prenne les détails pratiques pour nous-mêmes, j'aimerais juste mentionner trois points par lesquels on voit un parallèle avec Pergame, l'épître que le Seigneur Jésus a écrit à Pergame. On a vu donc la première déviation en rapport avec Éphèse, dans Apocalypse 2, verset 4, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » C'est le point de départ toujours. Et puis de là va suivre tout un développement. Et on voit que Dieu permet des persécutions comme à Smyrne pour restaurer le cœur de son peuple. Mais à Pergame, on voit une nouvelle phase. Et là, c'est verset 13, « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. » Amalek nous parle de Satan. On va voir ça tantôt. Et puis, dans l'histoire de l'Église, on voit donc que l'empereur romain est devenu le chef de l'Église. À Thyatire, on va voir un prochain développement. On va voir ça dans Juges 8 et 9, le développement qui suit. Mais ici, je pense qu'il y a un parallèle avec les jours de Gédéon, avec Pergame. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. Et puis on voit en Gédéon cet Antipas qui est mentionné dans le verset 13. Tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin. J'aimerais suggérer un parallèle entre Antipas et Gédéon. Gédéon qui était seul contre toute la puissance de l'ennemi, comme Antipas ici. Et puis, dans le verset qui suit, un peu plus loin, on voit que Gédéon s'est nourri des choses cachées. Verset 17, Apocalypse 2, verset 17, « À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. » On voit comment Dieu avait préparé le cœur de Gédéon dans le cachet. Il s'est nourri de cette manne cachée, pour ainsi dire. Donc, deuxième parallèle avec Gédéon. Il est devenu un vainqueur. On va voir ça tantôt aussi, la déviation de la part du peuple et puis les caractéristiques de Christ dans le vainqueur. Le vainqueur qui se nourrit, qui se fortifie en Christ. Mais il y a un troisième parallèle. À la fin, on pourrait peut-être suggérer que chapitre 6, c'est la préparation de Gédéon. Ça va ensemble avec cette manne cachée. Juge 7, ça c'est vraiment Antipas, ça c'est le combat. Mais juge 8, là on va voir une nouvelle forme de déviation. C'est la doctrine de Balaam. Verset 14 ici, dans Apocalypse 2, verset 14. Pierre d'achoppement, afin que les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles. Donc, après le réveil, dans les jours de Gédéon, on va voir dans Juge 8 un déclin, une déviation nouvelle. Mais je ne peux pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est juste ces trois points qui lient donc ces chapitres de Juge 6, 7 et 8 avec l'histoire de Pergame. Okay? Donc ça, c'est une façon dans laquelle on peut lire cette histoire. On voit que l'histoire d'Israël va parallèle avec l'histoire de l'Église dans ce sens-là, dans les déviations, dans les réveils que le Seigneur a donnés. Mais aussi, dans nos propres vies. Puis on aime surtout étudier ces détails en rapport avec nos propres vies. Donc, dans Juges 6, on voit une nouvelle phase et un nouvel ennemi, d'autres dangers. Dans chapitre 4 et 5, on a vu, je mentionne simplement Juges 5, verset 8, on ne voyait ni bouclier, ni pic chez 40 milliers en Israël. Là, il n'y avait pas d'armure, pas de défense ni offense contre l'ennemi. Ici, l'attaque est différente. Ici, l'attaque, c'est pour appauvrir Israël, pour ôter les ressources élémentaires. C'est donc une nouvelle étape dans les attaques de l'ennemi. Mais c'est causé par la désobéissance du peuple. On a vu déjà dans le chapitre 2 ce cycle qui se répète toujours, cette déviation. Puis Dieu, dans son amour, va châtier, va discipliner son peuple. Comme on le voit ici, Juges 6, verset 1. L'Éternel les livra à la main de Madian. On voit très tôt cette déviation. J'ai mentionné Apocalypse 2, verset 4. La hauteur, donc, de cette position merveilleuse que Dieu a donnée par le ministère de Paul et de Jean, même là, la déviation a commencé. Et aussi dans l'histoire d'Israël, si on lit Jérémie 2, on voit que dès le début, il y avait une déviation. Et Étienne, dans Acte 7, donne toute cette histoire de déviation et d'endurcissement. Mais Dieu s'occupe de son peuple. Dans son amour, il les discipline. Il les livre à la main de Madian. C'est pour les discipliner. Mais maintenant, on aimerait se demander, mais qu'est-ce que c'est exactement ce Madian? On a vu toutes sortes de mal qui viennent de l'extérieur. On a vu ça dans chapitre 3, en rapport avec l'attaque de Kushan-Rishathaïm. On a vu Moab, une forme de la chair dans sa paresse. C'était une deuxième attaque. Une autre attaque, on a vu donc la dernière fois, en rapport avec le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. On a pensé à l'intelligence, là, surtout, mais l'intelligence humaine qui est introduite dans les choses de Dieu. Mais ici, l'attaque est différente. Ça vient d'une combinaison de forces. Madian d'abord. Madian était lié au peuple de Dieu par les liens de parenté. Madian était un descendant d'Abraham par Keturah, donc très proche du peuple de Dieu. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui sont très proches du peuple de Dieu. Ils professent appartenir au peuple de Dieu, avoir les mêmes pères, comme ici Madian pouvait réclamer Abraham comme leur père. Mais quand même, ils n'appartenaient pas au vrai peuple de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Aujourd'hui, dans la profession chrétienne, on a toutes sortes de choses. On a de l'idolâtrie, mais on a aussi des gens qui nous réclament pour eux-mêmes. Ils disent, mais vous nous appartenez, on appartient à la même profession. Et puis, on voit deux origines dans Madian. Madian était donc lié à Abraham par Keturah, mais les Madianites sont aussi appelés des Ismaélites. Dans chapitre 8, je pense, verset 14, on verra ça plus tard, donc dans Juges 8, verset 24, par exemple, parce qu'ils étaient Ismaélites. Là, on voit donc une autre origine, par Agar. Et cela nous frappe aussi en connaissant l'histoire de l'Église, on voit ces deux origines. D'abord, une origine d'Abraham, un lien extérieur avec le peuple de Dieu, et puis aussi un lien par Agar. Agar était la servante. Et en rapport avec Agar, on peut penser à l'influence du judaïsme, à l'influence du légalisme dans l'Église. Dans Romains 7, on voit que chaque âme a la tendance à se placer sous la loi, pour s'améliorer soi-même, Romains 7. Dans Galates 4, on voit comment Paul compare ces deux systèmes, le système de la grâce en Sarah, avec le système d'Agar, un système d'esclavage, pas de liberté, pas la joie d'être des fils pour Dieu, vous voyez. Dieu veut nous avoir comme des fils qui sont dans sa présence, en toute liberté, comme devrait Isaac. Mais ce système d'Ismaélite ne connaît pas ça. Donc, si vous voulez étudier plus en détail, Romains 7, Galates 4 donne plus de détails sur ce système-là, le système d'esclavage. C'est remarquable que c'était les Ismaélites qui ont vendu Joseph en Égypte. C'est très remarquable. Donc les Ismaélites, les Madianites sont liés ensemble. On voit aussi que les Madianites s'associaient facilement avec Moab. Dans Nombre 25, on voit qu'ils se sont associés à Moab et étaient devenus un piège pour Israël. Là aussi, un piège pour Israël par les liens de parenté. Et ainsi, les liens de parenté peuvent être un piège pour nous, littéralement. Mais aussi dans le sens spirituel, les gens qui s'appellent chrétiens peuvent être des pièges pour nous par leur profession. Et en même temps, ils peuvent exercer une influence sur nous. Le mot veut dire querelleur ou contention, ceux qui font des controverses. On voit dans l'histoire de l'Église aussi combien de gens ont fait des contestations, de controverses, mais il n'y avait aucune nourriture. Et aujourd'hui aussi, si on pense à la théologie moderne, les gens, les théologiens libéraux qui s'appellent chrétiens, ils ont une influence très forte sur toute la chrétienté, mais il n'y a pas de nourriture. Ici, on voit que par l'attaque de Madian, le résultat était qu'il n'avait pas de nourriture pour nourrir, fortifier le peuple de Dieu. Et c'est remarquable que Madian s'associe donc à d'autres comme Amalek. Et Amalek, c'était un ennemi redoutable du peuple de Dieu. On voit ça déjà dans Exode 17. Et j'aime suggérer qu'en Amalek, on voit d'abord Satan. Satan qui attaque le peuple de Dieu par la chair. Madian, ça parle des associations mauvaises. Mais Amalek, ça parle d'une attaque directe de Satan par les convoitises de la chair. On voit aussi dans 1 Samuel 15 que le roi Saül avait essayé d'exterminer ces Amalekites qui avaient leur descendance d'Ésaü. Donc c'est une autre descendance, mais aussi liée au peuple de Dieu. C'est remarquable. Ésaü, qui était le frère de Jacob. Donc ces nations qui ont attaqué Israël étaient parentées. Il faut réaliser ça, que beaucoup d'attaques viennent pas des Chinois ou de ceux qui sont loin de nous, mais qui sont très proches. Et Ésaü, c'est quelqu'un qui avait rejeté, méprisé la grâce de Dieu. Puis Amalek, c'est un descendant d'Ésaü. Donc là, on voit l'influence des choses naturelles, en contraste avec la grâce souveraine de Dieu. Dans Exode 17, on voit cette attaque lorsque l'esprit, en figure de l'eau qui venait du rocher, on voit l'esprit qui travaille parmi le peuple de Dieu. Et Satan attaque ça par les convoitises de la chair. Ça, c'est Exode 17. Et puis, dans d'autres passages, on voit comment Dieu, seulement Dieu, pouvait aider le peuple contre cette attaque. Mais le peuple avait une responsabilité eux-mêmes aussi dans cette attaque-là. On ne peut pas améliorer la chair, mais on doit s'élever contre Satan, contre ses attaques, comme on voit dans 1 Pierre 5, par exemple. Donc, Amalek était un ennemi redoutable. Et puis les fils de l'Orient, c'est un troisième groupe qui est mentionné, qui venait de l'Orient. Donc littéralement, c'était des Bédouins, comme aussi les Madianites étaient des Bédouins. Mais les fils de l'Orient, peut-être on peut penser aussi à Genèse 4. Dans Genèse 4, on voit que les descendants de Caïn se sont déplacés dans la direction de l'Orient. Puis on peut penser là au système du monde, un système sans Dieu. Donc on a tous ces éléments ensemble. J'ai pensé à 1 Jean 2 par exemple, les trois catégories de convoitise, les trois catégories du péché, hein, la fierté, mais aussi la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ces trois catégories sont toujours ensemble et on les voit plus ou moins dans ces trois groupes mentionnés ici. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, et puis la fierté. On peut penser aussi à Satan, comme j'ai suggéré en rapport avec Amalek, Madian en rapport avec la chair, qui s'oppose contre l'esprit, et le monde qui s'oppose contre le Père. Il y a beaucoup de choses qu'on peut introduire ici. On voit que ça coopère contre le peuple de Dieu. Et puis, qu'est-ce que le peuple fait? Il se cache, verset 2, il se cache dans les antres, qui sont dans les montagnes, dans les cavernes, dans les lieux forts. C'est remarquable, le peuple de Dieu ne peut pas se défendre, ils n'ont pas d'armes, comme on a vu dans chapitre 5, et ici ils n'ont pas de nourriture. Ils ne peuvent pas se fortifier contre de tels ennemis redoutables. Verset 4, ils campaient contre eux et détruisaient les produits du pays. Quelle chose horrible! Le pays de Dieu, le pays du peuple de Dieu, tellement précieux, ces produits étaient détruits. Comme j'ai mentionné dans l'histoire de l'Église, et même aujourd'hui, on voit que les attaques de l'ennemi résultent dans le fait que le vrai peuple de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent vraiment à Dieu, n'ont plus de nourriture, plus de nourriture. Et ces bénédictions célestes, spirituelles, que nous connaissons par la grâce de Dieu, sont inconnues pour la plupart des chrétiens aujourd'hui. On peut penser à cette attaque des sauterelles qui détruisaient les produits du pays comme un jugement de Dieu. Mais ce n'était pas seulement la nourriture, le résultat était aussi ni mouton. Donc il n'y avait rien pour Dieu, pas de sacrifice, ni bœuf. Il n'y avait rien pour supporter le peuple dans leurs travaux pour préparer le terrain, les champs, ni âne, rien pour porter leur fardeau, rien. Tout était ôté. C'était comme une invasion, verset 5, comme une inondation, vous voyez. Puis dans Ésaïe 59, on a un verset qui dit, si ça arrive, une inondation de mal de l'ennemi, qui va élever le standard? Qui va s'opposer? Qui va être l'instrument dans la main de Dieu pour être un standard contre le mal? Puis c'est ça qu'on va voir dans Gédéon. Gédéon, il sera cet instrument. Mais c'est une invasion de mal, une occupation entière du pays. L'ennemi prend le pays par usurpation. Ainsi, en attaquant les ressources du peuple. Très appauvri, verset 6. Quel résultat? Les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. Ça, c'est donc une troisième phase. On a vu le mal, la discipline, et puis là, ils crient à l'Éternel. C'est l'humiliation, peut-être. Une humiliation. Ils réalisent leurs maux, leurs manques, et tout cela. Ils crient à l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, l'Éternel. Et puis peut-être on peut suggérer ceci. Pour mieux apprécier le joug de l'Éternel, les bontés de l'Éternel, il faut ici que le peuple connaisse d'abord le joug de l'ennemi. C'est pas nécessaire, vous voyez, mais souvent, dans les voies de Dieu, c'est ça qui arrive, qu'on doit goûter l'amertume du monde, la méchanceté du système de ce monde, pour pouvoir apprécier davantage le joug de l'Éternel. Mais ce ne serait pas nécessaire. Si on est fidèle, si on est obéissant, on était placé sous le joug de l'Éternel, dans sa dépendance, dans la communion avec lui, on n'aurait pas besoin de telles expériences. Et dans les voies de Dieu, on voit souvent que le peuple s'éloigne de Dieu, que Dieu doit permettre de telles attaques pour les ramener. Maintenant, comment Dieu va ramener ce peuple? D'abord donc, cette humiliation. Ils voient les conséquences de leurs travaux, de leurs manques, ils s'humilient. Et puis là, Dieu envoie un prophète. J'aimerais vous suggérer qu'on voit beaucoup de façons dans lesquelles Christ est introduit dans ce chapitre. Dieu introduit Christ dans le vainqueur. Et ainsi, Dieu veut aussi former quelque chose de Christ en nous, si nous voulons devenir des vainqueurs, de vrais disciples du Seigneur Jésus. Dieu introduit quelque chose de Christ par le prophète. Il introduit quelque chose de Christ par le sacrifice qu'on va voir tantôt. Il introduit Christ dans beaucoup de façons. On va voir ça aussi dans chapitre 7, le pain d'orge. De toute façon, Dieu a ses manières pour introduire Christ, pour ramener le peuple. D'abord, ici, c'est le prophète. On a vu en Déborah aussi un ministère prophétique. Elle n'était pas seulement juge, mais aussi prophétesse. Et puis, on a vu là que la prophétesse parle dans la présence de Dieu. Elle connaissait les pensées de Dieu et puis elle a donc communiqué les pensées de Dieu au peuple de Dieu. Ici, ce prophète, venant de la présence de Dieu, présente les pensées de Dieu. Maintenant, il faut réaliser qu'un un ministère prophétique a des caractéristiques différentes. Ici, c'est d'abord pour constater la déviation. Vous voyez, ça c'est un élément dans le ministère prophétique. Ça c'est un élément négatif. Constater la déviation, constater où on a manqué. Mais le ministère prophétique continue à introduire Christ. Puis on voit le résultat de ce ministère prophétique dans Gédéon. On pourrait se demander, mais ce prophète n'a pas eu de résultat. Il a parlé en vain. Il n'a pas de résultat. Verset 8, l'Éternel envoya au fils d'Israël un prophète. Puis là, on peut penser aussi au Seigneur Jésus, il est le vrai prophète. Il parle de la présence de Dieu. On le voit dans Jean 4 aussi avec la femme de la Samarie. Elle a reconnu le Seigneur Jésus comme le vrai prophète. Dieu révèle ses pensées par le prophète. Et puis, il mentionne simplement cette bénédiction que le peuple avait eue. Cette bénédiction, vous pouvez penser à ça dans versets 8 et 9, avec lesquels Dieu avait béni son peuple. Ils ont mis de côté ces bénédictions. Ils les ont comptées comme rien. C'est comme ils ont frappé Dieu dans son visage, pour ainsi dire. Et puis, ils constatent à la fin, vous n'avez pas écouté ma voix. Dieu les avait avertis à tant de reprises par le ministère de Moïse et de Josué de ne pas s'allier aux Amoréens, aux Canaanites. Puis c'est exactement ces dieux de l'Amoréen qui suivent ici. Terrible. Verset 11, on voit l'effet de ce ministère. Le prophète peut-être n'a jamais su que son ministère a eu un résultat. Mais j'aime suggérer que le résultat se trouve dans Gédéon. Gédéon est là, dans le verset 11, pour préparer de la nourriture, pour garder direct de la part de Dieu, un ange de l'Éternel. Le mot ange veut dire messager. On a vu un messager prophétique, un prophète, mais maintenant Dieu lui-même vient pour s'occuper de son peuple, parce que l'ange est le représentant de l'Éternel, mais il est l'Éternel lui-même. On voit ça au début de Jean, par exemple, le Seigneur Jésus est présenté comme la parole qui était auprès de Dieu, mais qui est Dieu. Et ainsi, l'ange de l'Éternel est le représentant de Dieu et le meilleur représentant de Dieu, parce qu'il est Dieu, vous voyez. L'ange est aussi l'Éternel lui-même, comme on le voit plus tard, verset 14, l'Éternel le regarda, puis l'Éternel parla. Donc, l'ange de l'Éternel et l'Éternel, c'est le même. Puis, on voit ça aussi dans Exode 3, puis d'ailleurs, ce sont des points importants pour réfuter les doctrines des témoins de Jéhovah. Il s'occupe de l'état de son peuple. On le voit dans Exode 3 aussi, l'ange de l'Éternel et l'Éternel sont les mêmes. Il s'occupe de l'état du peuple. C'est très touchant de voir ça dans Exode 3. Dans Ésaïe 63, verset 9, on lit un verset. Dans toute leur détresse, il était en détresse. Là, on voit l'ange de l'Éternel qui s'occupe de l'état du peuple, puis il est en détresse. Si le peuple est en détresse, Dieu est en détresse, parce que c'est son peuple. Et puis, il vient ici pour s'associer à son peuple. On a vu ça, je pense, je l'ai mentionné dans Juge 2, dans ce temps-là. On a comparé ce verset-là aussi avec Ésaïe 63. Mais là, on voit l'ange de l'Éternel qui monta de Gilgal à Bokim, qui a parlé à eux. Ici, il parle avec Gédéon. Il s'assit sous le térébinthe. Le térébinthe, c'est un arbre qui parle de force, de puissance. Mais j'aime toujours aussi voir le lien avec la croix. Le bois, en général, dans la parole de Dieu, donne ce lien avec la croix. C'est la seule place de repos, vraiment, au pied de la croix. Et puis, c'est à cette place-là qu'on peut avoir la communion avec Dieu. Dieu, donc l'ange de l'Éternel, s'est assis là. Il prend son temps, vous voyez. Il prend son temps pour préparer son instrument, son outil. Et ainsi, Dieu prend son temps pour vous et moi, pour les enfants qui sont ici. Dieu prend son temps pour nous élever pour lui-même. Ça prend des années, et continue toujours. Il prend le temps pour ça. Deuxièmement, c'est Ophra. Ophra veut dire poussière. Il n'y a rien en nous. On l'a exprimé dans notre cantique aussi. En nous-mêmes, il n'y a rien. Et plus tard, Gédéon le confirme. Il était le plus petit de sa maison. Et la maison de son père était le plus pauvre à Manassé. Donc, le plus petit. Mais c'est là où Dieu vient. Là où nous voyons notre petitesse, notre faiblesse, là Dieu peut travailler. Il ne peut pas se servir de nous si nous avons une haute pensée de nous-mêmes, si nous sommes fiers, comme ces Madianites. On va voir ça dans le chapitre 8 aussi, comment ces rois étaient fiers. Lorsque nous sommes fiers, Dieu peut rien faire avec nous. Il faut que nous soyons très bas. Et puis l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, peut-être vous connaissez ce passage-là, mais l'apôtre Paul, là, il présente... Il a une expérience là, très douloureuse, attaqué par l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il fait là, l'apôtre Paul? Il se remet entre les mains de Dieu. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans l'infirmité. Et là, on voit aussi une chose, une situation très faible, beaucoup de faiblesse. Un homme qui battait le froment dans le pressoir, c'est une situation anormale, très faible. Donc, dans cette faiblesse, Dieu vient pour aider. Le nom Joas, il était le maire du village. Hein? On voit un peu plus loin, on n'a pas lu ça, mais on va voir ça plus tard, que Joas était comme le maire du village. L'Abiezrite, le nom veut dire « père de secours ». Donc, on a besoin du secours. Joas veut dire même « désespéré », mais c'est une des significations, « désespéré ». Il y avait, du point de vue humain, aucun espoir pour que cette situation soit remédiée. Mais on voit ici un homme exercé. On voit Gédéon, et puis j'aime comparer Gédéon avec Timothée dans le Nouveau Testament. On dirait à la fin de la vie de Paul, ça vaut plus la peine de continuer, mais Paul n'était pas désespéré. Paul avait mis sa confiance en Dieu, et il avait vu en Timothée un homme exercé. Ainsi, on voit dans Gédéon un homme exercé, et Dieu l'a connu. C'est pour ça que j'ai dit au début, Gédéon s'est nourri de cette manne cachée. Dieu a vu ça. Dieu voit ce que nous faisons à la maison. Si nous prenons le temps pour lire la parole, pour prier dans le cachet, pour être dans la présence de Dieu. Il battait du froment. Ça veut dire, ok, je vais revenir à la signification du nom Gédéon. Gédéon veut dire quelqu'un qui coupe, qui abat. Puis ainsi, il a coupé, abattu les statues de l'ennemi, de la religion fausse. On va revenir à ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il battait du froment. Donc, il était exercé pour garder le fruit du pays, pour le mettre en sûreté. Et c'était une bonne quantité, parce que plus tard, dans ce sacrifice, on voit qu'il a amené un épha de farine. C'est peut-être 36 ou 40 litres. Donc, il avait préparé beaucoup. Et puis, il donne tout cela à l'ange, comme on va voir plus tard, comme un sacrifice, un repas. Le froment était préparé dans le pressoir. Le pressoir, c'est une place qui nous parle de pression, donc, où les raisins étaient pressés. C'était donc une place anormale pour préparer le froment. Le pressoir nous fait penser aussi aux souffrances de Christ. Pour jouir dans les jours difficiles, il faut d'abord connaître les souffrances de Christ. Et puis le froment nous parle de Christ comme on le voit dans Jean 12, vous connaissez peut-être ce verset-là, c'est un verset bien connu, où le Seigneur Jésus se compare avec le grain de blé. Jean 12, en vérité, je vous dis, verset 24, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus comme le vrai froment qui va produire du fruit. Et ainsi, dans les exercices de Gédéon, qui a pris ce froment, c'est un des fruits du pays. Dans Deutéronome 8, vous pouvez voir toute une liste des fruits du pays. L'orge, le blé, les raisins, toutes sortes de fruits. Puis ici, le froment, qui était donc un des meilleurs fruits du pays, est mis en sûreté par Gédéon. Puis, ce que je veux suggérer ici, les circonstances sont limitées, c'est dans le pressoir, il n'y a pas beaucoup de place, mais quand même, il le fait. Peut-être il a peur de l'ennemi, peut-être on pourrait lui faire des reproches, mais quand même, on voit sa fidélité. Il a apprécié le fruit du pays pour se nourrir lui-même, mais aussi pour prendre soin de sa famille, sans doute. Mais plus tard, on voit qu'il donne tout à l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut, verset 12, il lui dit, « L'Éternel est avec toi, fort et veillant homme. » Quelle chose merveilleuse! L'Éternel a vu ses exercices. Il a vu comment il était occupé pour sauvegarder le fruit du pays. Il dit, « L'Éternel est avec toi. » Quelle promesse! Si le Seigneur nous donne cette assurance qu'il est avec nous, ça nous donne joyeux, ça nous rend joyeux, ça nous donne la force nécessaire maintenant. Je pense aussi à David. David était un jeune homme, personne ne le connaissait, mais Dieu avait vu ce qu'il était dans son cœur. Dans 1 Samuel 17, on le voit, comment il avait à cœur les intérêts du peuple de Dieu. Un peu plus tard, on va voir comment Gédéon avait à cœur les intérêts de Dieu et du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que l'Éternel a dit, l'Éternel est avec toi. l'Éternel peut s'identifier à lui. Est-ce que Dieu, est-ce que le Seigneur peut s'identifier avec nous dans nos exercices? Est-ce que nous sommes vraiment intéressés dans les choses de Dieu? Ici, on voit Gédéon qui se prépare comme ce vrai Antipas. C'est tout encore dans le secret, mais Dieu a vu cette attitude, un vaillant homme. En lui-même, il était rien, il était faible, il était le plus petit, et tout cela. Mais c'est là où Dieu peut se servir de nous. Verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, donc, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» On voit ici donc que Gédéon, il ne s'occupe pas de lui-même, il parle tout de suite du peuple de Dieu. Ça, c'est un beau trait ici. Il s'identifie donc immédiatement au peuple de Dieu, avec les intérêts du peuple de Dieu. Je pense à Daniel. Daniel était dans Daniel 9, il n'était pas coupable de l'état du peuple, mais il s'identifie avec ce peuple de Dieu, avec les intérêts de Dieu dans le peuple de Dieu. Et puis là, verset 14, c'est très beau de voir ça. L'Éternel le regarda. C'est tellement touchant de voir ça. Dieu connaît nos cœurs. Il voit si nous sommes exercés, comme Gédéon. Il voit si nous avons un intérêt dans le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Il voit si nous sommes humiliés. Il le regarda. C'est une expression très belle. Une expression très belle. Et ça nous souligne de nouveau l'intérêt que Dieu a dans son peuple. S'il voit une âme exercée, il lui dit, va avec cette force que tu as. Mais on dirait, il n'a pas de force. Mais c'est exactement cette force-là, cet exercice qu'il a, cet intérêt qu'il a. Dieu peut se servir de ça. Et Dieu va le préparer pour devenir un vase plus tard, pour attaquer ses ennemis innombrables plus tard. On ne croyait pas ça, qu'un seul homme avec ses 300, comme on va voir plus tard, serait capable d'attaquer un tel ennemi. C'est Dieu qui prépare son outil. C'est Dieu qui prépare son instrument. Il dit, va avec cette force que tu as. C'est là où il n'avait rien. Pense à Paul dans 1 Corinthiens 2. Paul était là, en toute faiblesse. On peut lire ce verset dans 1 Corinthiens 2 au début. Mais c'est là où Dieu a travaillé. Un peu aussi, comme j'ai dit dans 2 Corinthiens 12. Dans l'infirmité, dans la faiblesse, la puissance de l'ennemi, la puissance de Dieu se manifeste. Et tu sauveras Israël. Vous voyez, le livre des juges nous parle des sauveurs. Et c'est là, de nouveau, on voit quelque chose du Seigneur Jésus. Le Seigneur veut introduire quelque chose de lui-même. Là où nous avons manqué, c'est là une occasion pour Dieu pour se manifester, pour montrer ce qui est dans son cœur. Et aussi dans Isaïe 63, ce verset-là, il est devenu leur sauveur. Donc, le vainqueur, comme Gédéon, va représenter quelque chose de Christ. Et puis, Christ est le vrai sauveur, mais il veut se servir de Gédéon pour être un sauveur. Et ainsi, Dieu veut nous préparer pour avoir une influence bénéfique pour le peuple de Dieu, dans ce sens-là, pour les sauver. Sauver de l'influence de l'ennemi. Puis, quelle expression « ne t'ai-je pas envoyé ?» Dieu s'est assis là pour voir ce qui se passe. Il prend son temps, il voit Gédéon, il nous voit aussi. Et puis, à un moment donné, il dit « je t'envoie ». J'ai pensé aux disciples qui étaient dans la présence du Seigneur Jésus pendant 3 ans de temps pour être formés, et puis à un moment donné, il les a envoyés. Ne t'ai-je pas envoyé? Mais c'est qui ça? Est-ce que c'est l'ange? C'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel. Je t'ai envoyé. J'ai pensé à Ésaïe 6 aussi, où on voit que Ésaïe répond à cette question. Envoie-moi. Il était prêt. Et aussi Gédéon maintenant, je pense, était prêt. Mais il voulait être sûr. Il était prêt. Dieu avait vu ça. Il était préparé à l'école de Dieu. Un homme exercé, prêt pour être utilisé dans les mains de Dieu. Il lui dit, « Ah Seigneur !» Il avait encore une question. Avec quoi sauverai-je Israël? Ce n'est pas une excuse ici. Comme dans l'histoire de Moïse, on voit que Moïse avait des excuses pour ne pas être envoyé. Mais ici, Gédéon est prêt, mais il a encore besoin d'instruction. Puis, il sera envoyé. On va voir ça cet après-midi, Dieu voulant. D'abord dans sa maison, puis dans sa tribu, et puis dans le pays. Le cercle de son service va s'élargir. Il sera envoyé. Mais avec quoi? Puis là, il réalise donc de nouveau, en lui-même, il est rien. Voici mon millier et le plus pauvre à Manassé. Et je pense, dans la mesure où nous réalisons notre faiblesse, notre petitesse, dans cette mesure-là, Dieu peut se servir de nous. Le plus grand apôtre, Paul, était le plus petit dans cette profusion. Le moindre des saints et le moindre des apôtres, le moindre des saints, comme Éphésiens 3 nous montre. Puis dans cette petitesse, on est prêt pour être un instrument de Dieu. David aussi, il était le plus petit, puis il était l'instrument dans la main de Dieu. C'était en Manassé, ça c'est remarquable. C'était pas en Éphraïm. Éphraïm était une tribu très fière. On va voir ça dans Juge vite plus tard. Et Dieu se cherche donc un instrument dans Manassé, qui était la tribu moins honorée, moins élevée dans les yeux de l'homme. On va voir ça aussi dans le deuxième taureau cet après-midi. Ce principe-là, que Dieu choisit celui qui est le moindre dans les yeux de l'homme. Mais verset 16, c'est la réponse. L'Éternel lui dit, « Moi, je serai avec toi. » Donc, il répète ce qu'il avait dit dans le verset 12, « L'Éternel est avec toi. » Il dit ici, « Moi, je serai avec toi. » C'est beau, on a besoin de ces deux promesses. D'abord, réaliser la présence de Dieu avec nous, mais aussi avoir la garantie, la promesse qu'il sera avec nous. Lorsque le combat va avoir lieu, il sera avec nous. Ainsi, Dieu avait promis aussi sa présence à Moïse et d'autres hommes de Dieu. Et puis, c'est au fond Dieu lui-même qui va élever la bannière. C'est Dieu qui travaille à travers ses instruments faibles. Et on a vu aussi dans les chapitres précédents comment ça plaît Dieu. Dieu prend un plaisir, pour ainsi dire, à se choisir des instruments faibles pour opposer l'ennemi. C'est un principe qu'on trouve dans 1 Corinthiens 1, que Dieu a choisi ce qui est faible, les choses faibles du monde, pour mettre à honte les choses élevées, les choses plus fortes de ce monde. Ainsi, Dieu confond la sagesse de ce monde par les instruments qu'il s'est choisi. Verset 17, et il lui dit, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. » Ce n'était pas manque de foi. Gédéon voulait être sûr. Il était un homme très prudent, un homme faible, comme nous avons vu, avec beaucoup de peur, mais ce n'est pas ici une question d'incrédulité. Il voulait être sûr. C'était que, et puis, il n'était pas encore 100% sûr que c'était vraiment Dieu qui parlait avec lui. Mais il ajoute ici, et ça c'est très beau de voir, « Donne-moi un signe que c'est toi qui parles avec moi. » Moi, j'ai été frappé de voir ça, parce que c'est vraiment un nom de Dieu. Celui qui parle, c'est toi. On voit une expression semblable dans le psaume 102. Le même, c'est celui, vous voyez, celui-là. C'est un nom de Dieu. Et puis, dans la proximité, dans la communion avec cette personne, il s'exprime ainsi. D'un côté, il n'est pas 100% sûr, mais là, il dit, donne-moi un signe que c'est toi. Donc, ainsi, il parle à Dieu. Dieu se manifeste à Gédéon. On le voit plus tard. Verset 18, « Ne te retire pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je vienne à toi. » Donc, de notre côté, on peut dire, il voulait le connaître mieux. C'est un peu l'exercice de Paul dans Philippiens 3. Il voulait connaître Christ davantage. Il voulait faire toutes sortes d'expériences pour connaître Christ davantage. Ainsi, Gédéon, il veut être sûr, pas seulement sûr, mais il veut connaître davantage cette personne qui lui parle. Et on a besoin de ça pour le connaître mieux, pour être un adorateur. Parce que le grand principe avec lequel on va terminer maintenant, c'est le principe d'adoration. Avant d'être un serviteur, avant d'être capable, pour être utile au peuple de Dieu, il faut être un adorateur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils veulent servir Dieu, ils veulent faire toutes sortes de choses, ils veulent aller en Chine ou en Alaska pour servir Dieu, pour que leur conscience soit mise à l'aise dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas la façon de Dieu. Vous voyez, Dieu donne la paix. D'abord, on va voir ça dans le chapitre 6, verset 24, l'autel Jéhovah Shalom. Shalom veut dire paix, mais aussi perfection. Tout est en ordre là, dans la relation entre Gédéon et Dieu. Mais c'est basé sur le sacrifice. Et c'est là où on voit maintenant une image de ce sacrifice. Sans le sacrifice de Christ, on ne peut pas avoir la paix avec Dieu. Sans le sacrifice de Christ, on ne peut pas jouir de cette relation avec Dieu. Et on ne peut pas être un serviteur non plus. Il faut être un adorateur d'abord. Et on voit donc que Gédéon, il va donner tout maintenant à l'ange. Toute cette nourriture qu'il avait préparée, un épha, c'était une bonne quantité, il donne tout à l'ange, comme un repas d'abord. Et puis on voit plusieurs éléments, on ne peut pas élaborer là-dessus, mais je voulais juste toucher là-dessus, verset 19. Gédéon entra et apprêta un chevreau. Au lieu d'être occupé du mal, de l'idolâtrie, il a occupé ici d'un chevreau. Le chevreau était utilisé comme sacrifice pour l'Holocauste ou pour le sacrifice pour le péché. Et ainsi, il faut que nous soyons occupés de Christ comme le vrai sacrifice. Et ça va nous garder contre l'influence de l'idolâtrie. On voit ici que Gédéon était séparé du mal, de l'idolâtrie, comme les autres étaient sous l'influence de l'idolâtrie. Et puis, les pains sans levain nous parlent aussi de cette séparation pratique. Ce n'est pas seulement le fait qu'il est occupé, en type ici, de Christ, mais lui-même était comme un pain sans levain. Il était séparé du mal. Et ainsi, Dieu veut aussi que nous offrions des sacrifices qui sont agréables devant Dieu. Mais ces sacrifices sont seulement agréables devant lui si notre marche pratique est en accord avec ces sacrifices. On va voir ça aussi dans l'Holocauste plus tard. L'Holocauste nous parle de Christ dans ses perfections pour Dieu. Mais Dieu veut maintenant que nous marchions comme des holocaustes, pour ainsi dire, qui sont pleinement pour Dieu. Donc ici, on voit des éléments du sacrifice de Christ. Dans sa vie, les pains sans levain. Dans sa mort, à la croix, le chevreau. Les pains sans levain, c'est lié à cet épha de farine. Donc une plénitude. Un épha, c'est une plénitude. Appelée trois mesures, dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Mais ici, un épha, c'est une plénitude qu'on voit en Christ comme sacrifice de gâteau. Et puis, il mit la chair dans un panier, il mit le bouillon dans un pot. On voit quand même de la faiblesse. Ce n'est pas un sacrifice comme on le trouve vraiment dans le livre de Lévitique, avec toutes les perfections selon les pensées de Dieu. Il y a des manques. Mais Dieu voit ce qui se passe dans le cœur de Gédéon et c'est acceptable devant Dieu. Gédéon n'est pas à la hauteur d'Abraham. Lorsqu'Abraham a pris un épha de farine fine dans Genèse 18. Abraham était plus proche de Dieu, mais ici c'est un jeune homme. On ne peut pas s'attendre que tout soit en perfection au début de notre marche chrétienne. Mais ce qui est beau de voir que Gédéon est prêt pour offrir tout cela à Dieu. Puis s'il y a des jeunes enfants ici qui dans leur cœur veulent donner quelque chose au Seigneur, c'est agréable devant Dieu. Malgré nos faiblesses, nos manques, il connaît nos cœurs et puis il va accepter ça, comme on le voit ici. L'ange change maintenant ce repas. C'est comme un repas que Gédéon offre à l'ange. Et puis l'ange touche ce repas et lui donne le caractère d'un sacrifice. Verset 20, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair. La chair nous parle donc du sacrifice de prospérité aussi. C'est le repas et le sacrifice de prospérité a toujours le caractère de communion. Communion avec Dieu, communion avec les membres du peuple de Dieu. On voit ça dans Lévitique 3 et 7. Là, on a plus de détails là-dessus. Les pains sans levain, qui nous parle donc de ce sacrifice de gâteau, et pose-les sur le rocher là. De nouveau, une place qui nous parle de Christ. On a vu le pressoir, ça parle des souffrances de Christ, le térébinthe, le bois, mais aussi le rocher, c'est une place qui nous parle de Christ. Exode 33, déjà, on voit le rocher. D'autres passages, Exode 17, le rocher. Donc, là, dans la présence de Dieu, ce sacrifice est déposé. Et puis, verset 21, l'ange de l'Éternel étendit le bout du bâton. C'est ici un signe de sa puissance. Et quelle chose merveilleuse, ici, dans la présence d'un seul homme, Gédéon, l'ange va sortir du feu du ciel. Ce qui s'était passé lorsque le peuple, tout le peuple ensemble dans Lévitique 9, avait offert un sacrifice sous la direction de Moïse, d'Aaron, tous étaient là, tout était en perfection. Et puis le feu est tombé du ciel pour consumer le sacrifice. Ici, dans l'extrême faiblesse, un seul homme, dans le secret, Dieu fait la même chose. Puis cela nous confirme donc que dans les jours les plus difficiles, les jours de la ruine, on voit que toutes les ressources de Dieu sont là et que même la présence de Dieu est là et qu'il accepte maintenant ce sacrifice. Quelle chose merveilleuse et quel encouragement pour nous aussi que Dieu veut nous former pour être des adorateurs. pour être dans sa présence. Il consuma la chair, c'est aussi un élément qu'on trouve dans l'Holocauste, qui était entièrement pour Dieu. Ici, on peut dire, Gédéon est prêt. Il est entièrement pour Dieu. Il donne tout, aucune réserve, aucune réserve. Et l'ange de l'Éternel s'en alla de devant ses yeux. On dirait, mais c'est dommage. Il est parti maintenant. J'ai pensé à Luc 24. Vous voyez, ces deux disciples d'Emmaüs, peut-être un couple, on ne sait pas. Le Seigneur était avec eux, il s'est fait reconnaître, puis, oups, il était parti. Mais il est devenu invisible, mais il est resté dans leur cœur. Et ainsi, le Seigneur Jésus est invisible, mais il reste avec nous, il est dans nos cœurs. Et c'est là la meilleure préparation pour le service. Gédéon est devenu un adorateur ici. Et Dieu a accepté son sacrifice. Donc peut-être on peut continuer cet après-midi avec cette pensée-là, parce que l'heure est finie. Je voulais revenir à cet autel que Gédéon a bâti en rapport avec ce sacrifice. C'est le premier autel. Puis après ça, on va voir un deuxième autel. Mais s'il y a encore des questions, on aimerait en parler maintenant. J'aurais dû au début que tout le monde devrait écrire ses questions ou garder en mémoire, parce que c'est profitable. Si on a des questions, c'est toujours encourageant pour vous et pour moi aussi.